L'objet de la table ronde précédente était justement de pouvoir confronter des points de vue, des situations, etc. Donc je crois que l'objectif est atteint. Évidemment, nous pouvons en reparler tout au long de la journée et également lors de la visite de la Ludomédiathèque qui aura lieu dans un quart d'heure. D'ici là, je vous propose de vous expliquer quel a été le cheminement qui a prévalu au sein de la collectivité de Saint-Médard-en-Jalles pour créer une ludomédiathèque dans cette ville. Que s'est-il passé ? Mais avant toute chose, je tiens à remercier Annie Dourlan qui n'est pas là aujourd'hui et je remercierai également Christine Carrier et Léonore Clavreul de pouvoir lui transmettre notre reconnaissance pour nous avoir confié l'organisation de cette journée et l'accueil. Donc voilà, moi je vous propose pour se détendre de jouer un petit peu en expliquant ce qui s'est passé ici. Tout d'abord, Saint-Médard-en-Jalles, ville au sein de la métropole bordelaise, comme le dessin, ce plan le montre, c'est la ville la plus étendue de toute l'agglomération. Elle est constituée de 8 quartiers, ce qui ne simplifie pas les connexions entre quartiers. C'est une ville dynamique sur laquelle vous pouvez voir sur ces diapositives qu'il se passe plein de choses. Et il y a du sport, mais pas que du sport. La culture est principalement localisée en centre-ville, dans le pôle qui s'appelle le Carré des Jalles. C'est un espace de 10 000 m² dans lequel se trouvent 3 salles de cinéma, une école municipale de danse, une école municipale de musique, j'oublie des choses, une association, un EPCC, donc espace, le Carré, les colonnes, qui est dédié à la scène, au spectacle. Spectacle vivant et à l'intérieur duquel vous avez une médiathèque représentée ici schématiquement par ces quelques photos, une médiathèque d'à peu près moins de 1800 m². On parle de réseau des médiathèques, mais ça, Vanessa Dumas l'a expliqué tout à l'heure dans son introduction, l'adjointe à la culture, donc je ne vais pas revenir dessus. Et vous avez ici une petite partie de collègues, mais je vous assure, il y a des hommes. Ils n'aiment pas se faire photographier, mais on en a. On en a 5. Notre dernier bébé que vous pourrez voir en visitant la ludomédiathèque, elle est dans le jardin, c'est la bibliambule. Hop, je suis allée trop vite. Oh, on m'avait bien dit. Voilà, la bibliambule, c'est un vélo, assistance électrique, qui permet de se déplacer sur la commune et grâce auquel nous menons des actions hors les murs. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Comment ça se passe ? Dès qu'il fait beau, on la sort, on l'amène, le but, c'est de surprendre. Nous, ce qu'on veut dans le réseau des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles, c'est surprendre la population, surprendre les gens pour les attirer vers nous et vers nos structures, vers nos établissements. Donc, il fait beau, on sort la bibliambule, on la déploie, un quart d'heure, c'est fait. On y met des livres, on y met des jeux, on y met des jouets. Et il nous arrive même de sortir nos instruments de musique. Alors, ici, vous êtes à Cap-Ouest. Voilà comment c'était avant. Vous ne reconnaissez rien, mais c'était un ancien supermarché. Donc, c'était Cap-Ouest avant. Et bien évidemment, Cap-Ouest maintenant. On y trouve beaucoup de... Dans le projet initial... un vrai souci de petite enfance, un lieu dédié à la petite enfance. Donc, originellement, quand la municipalité m'a fait la commande de créer une annexe à la médiathèque, j'étais partie sur une annexe dédiée à la jeunesse. Et petit à petit, au hasard des pérégrinations que je vais vous exposer, mon idée a évolué et les élus ont accepté de la suivre. Donc vous verrez ce qu'il y a dans Cap-Ouest, la petite enfance, des salles réservées à des associations comme celle-ci, mais également le secours populaire et le secours catholique. Donc énormément de liens sociaux aussi dans cet ensemble, avec lequel évidemment nous travaillons, mais ça peut-être qu'Isabelle l'a dit un peu. Alors, pourquoi de la petite enfance ? Parce que la CAF subventionnée. Pourquoi de la médiathèque ? Parce que l'État subventionnait. Et donc, c'est pour ça que la main prenait le petit paquet de dollars, ce qui nous a permis de pouvoir quand même développer cet outil. Donc, voilà la carte des quartiers de Saint-Médard-en-Jalles. Vous êtes ici à Astignan. Voilà, donc dans les quartiers ouest, à peu près 10 000 habitants dans ce quartier. Donc si vous voulez comparer les chiffres dont nous pourrons parler après, vous avez un ratio de 10 000 habitants sur ce quartier-là. Un quartier dynamique en pleine expansion, que ce soit par la population, que ce soit par l'économie. Mais ce qui a présidé aussi à cette réflexion, ça a été le hasard de rencontres. Ah oui, pardon, ça c'était tout ce qu'il y a sur le quartier, j'oubliais. Voilà, 8 à 10 000 habitants, 8 000 habitants à l'époque, 10 000 aujourd'hui. Donc le hasard de rencontres également. Au cours de l'année 2010, j'étais amenée à visiter la ludothèque du Haillan, et je remercie ma collègue présente aujourd'hui de m'avoir montré ce lieu. Du coup, je me suis dit, mais c'est vrai, c'est les jeux, c'est intéressant, pourquoi je ne me préoccupe pas de ça ? Également, il existait sur la commune, il existe toujours une association qui s'appelle Avec Elle, qui propose du jouet. C'est une association ludothèque qui continue d'exister parce que nous n'investissons pas les mêmes sphères, les mêmes champs d'action. Et il y a des choses que cette asso fait et que nous ne faisons pas. Il y a des choses que nous faisons qu'elle ne fait pas. Donc c'est plutôt complémentaire si ça peut résoudre un certain nombre de questions qui sont posées tout à l'heure. L'IUT de Bordeaux-Montagne, également, j'ai découvert qu'il y avait une filière, tout ça en 2010, hein, qu'il existait une filière professionnelle de ludothécaire. Donc moi, je ne connaissais pas particulièrement ce métier. Et le 24 juin 2010, une journée d'études organisée à l'IUT sur l'identité des ludothèques. J'y suis allée en tant que spectatrice et j'ai écoutez les propos de Nathalie Roucous, qui est une enseignante chercheure à Paris 13, et vraiment tout ce qu'elle disait sur les problématiques qu'elle exposait, je le traduisais en termes de bibliothèque. Exemple, la question des choix de jeu, la question de la censure, la question de la ludothèque ouverte à tous, bah oui, une bibliothèque aussi, la question du fonctionnement en accès libre de la ludothèque, bah oui, aussi. Voilà, tout un tas de choses qui elle maniait du vocabulaire que je comprenais parfaitement dans mon métier. Il se trouve qu'à côté de moi, dans l'amphithéâtre, j'ai eu la chance d'être assise, et le hasard a fait que je sois assise à côté de la directrice des ludothèques associatives de Bordeaux, donc Interlude, Patricia Petit. Et du coup, nous avons échangé et je lui ai dit, mais moi, je suis là parce que je m'interroge sur la place du jeu en bibliothèque. Et elle me dit, mais c'est excessivement intéressant comme démarche, on peut se revoir, en discuter ensemble. C'est ce que nous avons fait. Suite à cela, la collectivité, la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, lui a confié une mission d'étude, ce qui fait qu'elle a pu travailler une mission d'accompagnement sur le projet de ludomédiathèque et nous avons travaillé ensemble. Elle nous a aidé au pilotage de projet, à la définition, à l'aménagement des espaces et à l'élaboration des moyens financiers et humains. Évidemment, l'autre partenaire, c'est Elisabeth Meller-Liron, la DRAC, présente ici, conseiller pour les livres et la lecture, qui nous a également fortement soutenus dans ce projet de ludomédiathèque et de création de ce lieu. Et enfin, la BPI, il n'y a pas de hasard, le 22 novembre 2012, j'étais à la BPI assister à un colloque sur le partage des savoirs, les bibliothèques dans la cité. Et au cours de ce colloque, je découvre qu'il y a une ludomédiathèque à Fos, puisque Caroline, tu es intervenue ce jour-là. Et à la pause, je vais la voir, je lui dis, mais moi, je suis en train de faire la même chose à Saint-Médard et je ne savais pas que vous existiez. Et elle me dit, oui, mais moi, j'inaugure demain. Ah, elle était plus rapide que nous. Depuis, on se connaît, on se côtoie et je suis ravie de pouvoir lui faire visiter celle de Saint-Médard aujourd'hui. Bon, j'essaie d'accélérer. Le deuxième point, c'était de cette réflexion et de son aboutissement. Ça a été que tout ça fait que dans mon crâne, il y a eu beaucoup de questionnements. Ça a été plutôt tempête sous mon crâne. Je me suis dit, est-ce que le jeu est légitime en bibliothèque ? Est-ce qu'il fait partie des pratiques culturelles ? Est-ce que c'est une mission des bibliothèques ? Non, ça n'est pas une mission fondamentale en matière d'accès au savoir, mais est-ce que ça peut être détourné ? Est-ce qu'on apprend grâce au jeu ? Oui. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce que dans les bibliothèques, on a toujours du jeu vidéo, et ça depuis très longtemps. Et si on a du jeu vidéo, pourquoi on n'a pas des jeux plus traditionnels ? Donc voilà, j'ai coché oui à toutes ces questions et je me suis dit, oui, pour moi, ce sera ça. Un autre questionnement, c'était celui de l'image des bibliothèques. Voilà, Françoise Legendre en a parlé, une bibliothèque, c'est ça. Oui, mais désormais, une bibliothèque, c'est aussi ça. Le danger, évidemment, c'est que de détourner, et ça, les bibliothécaires ne doivent absolument pas le faire, selon moi, c'est de détourner le jeu d'en faire simplement un produit d'appel pour attirer de nouveaux publics en bibliothèque. Nous recherchons tous du nouveau public, il n'y a pas de problème. Quand on voit la fréquentation des bibliothèques en France, c'est pas mal, mais enfin, on a une grosse marge de progression. Donc, je crois qu'on n'est pas à être, on n'a pas à être dans la confrontation, on est dans l'union, si je puis me permettre. Là-dessus, je suis aussi tombée sur une définition de la ludothèque sur le site de l'ALF à l'époque. Alors voilà, j'ai pris un petit peu trop tard. Voilà la définition. En gras, vous avez tout ce qui est commun aux bibliothèques. C'est-à-dire que la ludothèque, si je transforme en disant la bibliothèque est un équipement culturel où se pratique l'accès libre, le prêt et des animations. Bon, j'enlève ludique. Sa structuration autour des, on va dire livre pour les collections, mais c'est l'ensemble des collections, films, disques, etc., lui permet d'accueillir des personnes de tout âge. C'est un lieu ressource géré par des bibliothécaires et sa mission est de donner à lire, à jouer, à écouter, à regarder. Voilà, donc moi je suis désolée, mais pour moi, la réponse était très claire. Donc à partir de là, le projet de Ludomédiathèque à Saint-Médard-en-Jalles s'est précisé. Et comme Vanessa Dumas l'a dit tout à l'heure, nous travaillons sur trois valeurs dans mon service qui sont à la base de toute action entreprise dans ce service, que ce soit la Bibliambule, que ce soit les imaginaires de Saint-Médard-en-Jalles qui a eu le prix de l'animation Livre Hebdo l'année dernière. Tout doit passer par de la proximité, de la convivialité et effectivement être innovant. À partir de là, la Ludomédiathèque devait répondre à ces trois critères. Donc nous avons élaboré des axes stratégiques et opérationnels de notre projet. Ça, je pourrais vous les donner si vous en avez besoin. Je vais passer rapidement. Et les attendus de ce projet, c'était de pouvoir compléter l'offre existante de la médiathèque du centre-ville, qui est à 2,5 km, d'en faire un lieu de proximité accessible, un lieu de fréquentation pour les jeunes, mais aussi les seniors. Parce que souvent, ludo égale jeu, jeu égale enfant. Et moi, je milite activement pour le jeu chez les seniors. Et on en parlera ensemble dans la ludomédiathèque tout à l'heure, si vous le voulez bien. Également, l'interaction avec les centres sociaux de la commune qui sont situés aux alentours, les associations, la lutte contre la fracture numérique, tout ce qu'on fait en bibliothèque, l'élargissement du public, un portail commun, un SIGB commun entre les établissements du réseau et un rayonnement sur le quartier et même au-delà. Et vous en êtes la preuve aujourd'hui. Les freins que j'ai rencontrés. Alors, les freins sont avant tout psychologiques. Premier frein, le doute. Le doute dans mon esprit, le doute dans celui de mes collègues, le doute dans celui des ludothécaires que je rencontrais. Beaucoup de scepticisme également, beaucoup de scepticisme. Mais où est-ce qu'elle va? Où est-ce qu'elle met les pieds? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi cette OVNI? Et donc de la perplexité, son corollaire. Mais en même temps, malgré tout cela, j'ai eu beaucoup de certitudes. Quand on est certain, on est fort. Donc j'ai été envahie de certitudes, notamment sur la pertinence de mélanger ludo et médiathèque. La ludomédiathèque de Saint-Médard-en-Jalles, je redis, n'est pas que pour les enfants. Nous ne travaillons pas avec les scolaires. Nous n'accueillons pas les enseignants à la ludomédiathèque. Nous les accueillons à la médiathèque. Ça a été décidé comme ça, conjointement avec Vanessa Dumas. Nous accueillons les enfants, mais via les TAP, via les CLAE, via les centres de loisirs, mais pas via la pédagogie. Voilà, c'est un choix que nous avons fait au départ, puisque nous avons plusieurs établissements. Le jeu et le jouet, ils font partie de notre politique documentaire au même titre que les autres supports. On ne se pose plus la question. Moi, j'aime beaucoup le terme de porosité entre bibliothèque et médiathèque et ludomédiathèque. J'en discutais avec Françoise Lejeune tout à l'heure. Elle-même a cité ce terme de porosité. Et franchement, vous allez voir que c'est ce qui se passe chez nous. Quelques mots-clés, etc. J'ai passé les compétences complémentaires entre les métiers. C'est-à-dire que dans notre équipe, les ludothécaires gardent l'expertise de ludothécaires, les bibliothécaires gardent l'expertise de bibliothécaires, mais vous verrez, ils vivent très bien ensemble, ils ont cheminé les uns vers les autres, et désormais, de même, ils ont plutôt tendance à se définir comme toi, Caroline, en tant que ludomédiathécaire. La question des espaces, ça vous allez le voir directement en visitant. Il y avait trois possibilités. Tout d'abord, insérer l'association avec elle dans ce lieu de Cap-Ouest. Là, deux services séparés auraient cohabité, un associatif, un municipal. Ça n'a pas été l'option retenue. L'autre possibilité, c'est de créer deux services séparés, mais avec une hiérarchie commune. C'est-à-dire qu'il y ait un secteur jeu dans la médiathèque, comme il y a un secteur musique. Ça, Françoise de Jordan en a parlé aussi. Ça n'est pas la position qui a été retenue. Celle qui a été retenue, ça a été d'intégrer la ludothèque dans la médiathèque. Et alors, comment ça s'est passé? C'est très simple. Les locaux ne sont plus du tout basés sur les collections. Le fonctionnement n'est plus basé sur les collections. Même si les collections restent au cœur de notre métier, c'est pas moi qui vais vous dire l'inverse. Ce qui a prévalu, c'est le public. Et on s'est dit, c'est 10 000 habitants, c'est 8 à 10 000 habitants de ce quartier. Pourquoi est-ce qu'on leur ferait un bunker pour jouer et un bunker pour lire? Ce sont les mêmes personnes qui vont venir ici. Donc, nous avons tout mélangé. Et vous verrez que les supports sont considérés comme complémentaires et sont mis à la disposition dans les mêmes espaces. Quand vous allez entrer dans la ludomédiathèque, vous pourrez l'observer. Pour les 0-3 ans, vous allez trouver aussi bien des jeux, alors j'emploie hein, Baptiste, le mot de jeu dans le sens global, que les tout premiers albums pour bébés. Vous verrez le rayon des romans policiers. Il comporte également, il présente les jeux d'énigmes. Vous verrez les romans pour adultes avec les jeux de société. Voilà, tout cela est intégré, mêlé les uns aux autres. Alors évidemment, il y a la question du bruit. Françoise Jean en a parlé tout à l'heure. Ayant décidé de ce concept auparavant, en amont des travaux, ça a été une exigence très forte auprès de l'architecte qui a totalement respecté le cahier des charges. D'autant qu'à la médiathèque, nous souffrons beaucoup de bruit, même dès qu'un enfant crie un peu, on a envie de pendre. Donc il est évidemment hors de question de faire la même chose ici. Donc là, le bruit est totalement bien étudié et 100 personnes se côtoient dans la ludomédiathèque sans que ce soit réellement problématique. En plus, vu les espaces, vous verrez, nous avons aussi la chance d'avoir un jardin privatif qui est très joli, qui fait 420 mètres carrés, ce qui nous double la superficie de la ludomédiathèque. Et dès qu'il fait beau, on ouvre les portes et le dedans va dehors, le dehors pénètre à l'intérieur. Alors, comment cohabitent toutes ces personnes? Là, je suis allée trop vite, je crois. Non, voilà. Oui, mon troisième point, c'était cet hybride qu'est la ludomédiathèque. Comment vit-il aujourd'hui? Que se passe-t-il? Eh bien, en termes de fréquentation, ça c'est un indice, nous avons un compteur d'entrée. Chaque fois que la ludomédiathèque ouvre ses portes, il est mis à zéro. Et chaque soir, quand elle ferme ses portes, on relève ce compteur. C'est très basique, c'est très, très simple à faire. Et on enlève 10% du chiffre qui est retenu parce qu'il y a les toilettes à l'extérieur. Donc voilà. Donc là, les chiffres que vous avez sont vraiment tout public. Donc 1540 sur 2,5 mois lors de l'ouverture. 18 000 entrées l'année suivante. 39 000 en 2015. Et au 1er novembre, nous étions déjà à plus de 35 000. En moyenne, il y a 4 000 entrées par mois dans cette ludomédiathèque. Alors j'accélère, Mélanie, c'est promis. Les cohabitations des publics, eh bien, c'est extraordinaire à voir. Comme on ne peut pas tout vous montrer, il y a un film qui est projeté dans les locaux de la ludomédiathèque. Vous pourrez observer des situations de vie de cette ludo. On y trouve des familles qui jouent ensemble. On y trouve des mamans, des nounous qui discutent. On y trouve des enfants qui jouent pendant que leurs parents lisent. On y trouve des seniors de l'EPA qui viennent tricoter une fois par mois chez nous et qui ont commencé par nous faire les tricots des poupées, etc., etc., qui maintenant viennent tricoter pour eux, que des personnes isolées sur le quartier viennent rejoindre, qui ne sont pas du tout à l'EPA, mais qui viennent se joindre et qui ne sont pas forcément vieux, qui viennent prendre des cours de tricot. Nous avons des ludothécaires qui conseillent des livres, des bibliothécaires qui conseillent des jeux, mais oui, c'est possible. Et le symbole le plus fort que j'ai à vous montrer, enfin, je n'ai pas l'image, mais je peux vous le dire, parce que je l'ai vu de mes yeux vus, mes collègues aussi. Le jour où j'ai vu deux parents autour d'une table en train de jouer, et de chaque côté de la table, deux enfants en train de lire une bande dessinée. Je me suis dit, là, on y est, c'est bon, c'est gagné. Donc, tout le monde cohabite. Alors, ce n'est pas l'idéal, mais c'est quand même, franchement, les gens nous remercient beaucoup pour l'ambiance qui s'y déroule. Encore hier soir, il y a une personne qui est venue me voir, qui me dit, vous êtes la directrice. Ben, écoutez, félicitations, votre équipe, elle est extraordinaire, et le lieu, c'est génial, on y passe beaucoup de temps. Bon, voilà, donc, allez, heureux, oui, on est heureux. Alors, qui est heureux ici? Ben, en tout premier lieu, Les habitants sont des administrés. Donc, quand les administrés sont heureux, qu'est-ce qui se passe? Les élus sont heureux. quand les élus sont heureux, qu'est-ce qui se passe ? Ils vous maintiennent les moyens, mais oui, vous continuez à vous donner des moyens. Et quand ils donnent des moyens, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les professionnels sont aussi des gens heureux. Et à tel point qu'aujourd'hui, le premier magistrat de la commune envisage de faire des travaux dans la médiathèque très prochainement. Donc, en conclusion, juste un mot que pourrait dire notre DGS, notre directeur général des services, c'est un ticket gagnant-gagnant, quoi. C'est un clin d'œil, Vanessa. La conclusion, c'est est-ce qu'il y a un champ, alors il y a une petite erreur d'orthographe, est-ce qu'il y a un champ à investir en matière de politique publique sur ces cohabitations et sur ces mélanges ? Moi, je dirais, voilà, je vais m'autociter, si vous voulez. Un bibliothécaire ne peut pas s'improviser ludothécaire. Et réciproquement, nous avons beaucoup à retirer d'une coopération étroite, et notamment où, à une heure où, en bibliothèque, on parle de collaborer avec les usagers, de coopérer avec l'usager, de faire entrer les gens dans la médiathèque et de décider des services ensemble, pourquoi on ne le ferait pas avec des ludothécaires ? Il faut que je clique. Une ludomédiathèque n'est pas une menace pour les ludothèques. Une ludomédiathèque n'est pas une menace pour la lecture publique. Et vraiment, venez visiter. Merci de votre attention. Je remercie ma collègue Charlotte qui m'a aidé à faire ce diaporama. Et je vous retrouve dans la médiathèque. Le temps de pause sera à l'issue de la visite ou maintenant pour ceux qui ne veulent pas visiter. Et nous nous retrouverons à 14h30 ici dans cette salle. S'il vous plaît, deux secondes. 14h30 ici dans cette salle pour l'après-midi. Et entre autres choses, donc les étudiants de l'IUT seront aussi à votre disposition, ainsi que mes collègues ludothécaires, pour ceux qui voudront jouer.